Bienvenue à vous tous, bienvenue à ceux qui sont de passage, bienvenue à ceux qui sont là fidèlement. C'est le Seigneur qui nous accueille maintenant. Seigneur, on dit que tu nous parles, mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. Les seules voix que j'entends, ce sont des voix fraternelles qui me disent les paroles essentielles. On dit que tu fais route avec nous, mais je ne t'ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. Les seuls compagnons que je connaisse, ce sont des êtres fraternels qui partagent la pluie, le vent, le soleil. On dit que tu nous aimes, mais je n'ai jamais senti ta main se poser sur mes propres épaules. Les seules mains que j'éprouve, ce sont des mains fraternelles qui étreignent, consolent et accompagnent. Mais si c'est toi, ô mon Dieu, qui m'offre ces voix, ces compagnons, ces mains, alors, au cœur du silence et de l'absence, tu deviens par tous ces frères parole et présence. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané que vous allez trouver dans le psautier, dans le petit livret qui l'accompagne.
Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que
Nous écoutons maintenant comment le Seigneur nous invite à la louange. Ne laisse pas le chant s'enfuir de ta vie, qu'il fasse clair et beau, sous le ciel sans nuages, des jours transfigurés, qu'il fasse sombre et froid pendant les jours d'orage à l'horizon voilé. Ne laisse pas le chant s'enfuir de ta vie. Les autres en ont besoin. Tes frères, par le monde, oublieux de ton Dieu, dans l'ombre et le chagrin, ils se redresseront si tu gardes pour eux la flamme de l'espoir aux tons harmonieux. Ne laisse pas le chant s'enfuir de ta vie. Un jour, tu comprendras les pourquoi de la terre, l'envers de chaque peine et de chaque douleur. Un jour, tu connaîtras dans la pleine lumière l'amour du Dieu vivant dans le parfait bonheur. Ne laisse pas le chant s'enfuir de ta vie. Amen. Et je vous invite à prendre dans le psautier le psaume 66b. Nous chanterons les strophes 1, 2, 3 et 4. Chanter de joie,
se lasser en tout lieu pour déjouer l'œuvre perverse, pour abaisser les orgueilleux. Quand tu veux éprouver notre âme, comme au creuset d'un
vous asseoir. Nous écoutons maintenant ce que Dieu veut pour nous. Tu es heureux, toi qui es pauvre, toi dont la richesse n'écrase personne. La liberté de Dieu est dans ton cœur. Tu es heureux, toi qui écoutes, toi qui ne possèdes pas la vérité, mais qui la cherches humblement avec ses frères. Ton chemin nous conduit vers le Dieu vivant et vrai. Tu es heureux, toi qui portes la peine de tous ceux qui crient aujourd'hui leur désespoir, toi qui es torturé par leur souffrance. L'angoisse de Dieu est dans tes yeux. Tu es heureux, toi qui luttes pour que vienne la justice, pour que le pauvre soit regardé comme un homme. La justice de Dieu est avec toi. Tu es heureux, toi, dont la colère s'éteint avant le coucher du soleil, toi qui aimes et pardonnes, toi qui accueilles et fais confiance, l'amour de Dieu resplendit sur ton visage. Tu es heureux, toi qui es pur, toi qui n'es pas compromis avec les puissants de ce monde, toi qui as pris le parti des opprimés, des écrasés, la vie de Dieu est en toi source jaillissante. Tu es heureux, toi qui bâtis la paix, toi qui veux que la paix soit aujourd'hui le pain partagé par les hommes de toute la terre, tu es heureux, la paix de Dieu est dans tes mains. Tu es heureux, toi qui es en prison, injurié, calomnié, condamné à cause de ton combat pour la justice, ta croix est celle de Jésus-Christ, ta vie donnée est commencement d'un monde nouveau. Amen. devant le désir de Dieu, nous disons maintenant nos manquements. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à témoigner de l'amour du Père ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ton amour, prends pitié de nos faiblesses. Tu veux des hommes et des femmes qui mettent leur confiance en toi et nous nous perdons dans nos hésitations. Tu veux des hommes et des femmes dont toute l'existence montre au grand jour ta bonté et nous nous refermons sur nous-mêmes. Tu veux des hommes et des femmes dont les simples actes et les simples paroles annoncent ta paix et nous n'arrivons pas à dépasser nos divisions. Tu nous invites à partager et nous nous enfermons dans notre bien-être et notre confort matériel. Tu nous donnes un cœur pour aimer et nous le laissons se remplir de rancœur et de jalousie. Tu nous traces un chemin d'espérance et nous sommes enclins au fatalisme, au découragement. Nous t'en prions, Seigneur, viens au secours de nos faiblesses qui sont autant de manques de foi. Pardonne-nous et aide-nous à te suivre sur le chemin de vie. Amen.
C'est en lui ce que j'espère. Dans son éloignement, dans les mains de la terre, Jésus-Christ le plus fort.
Nous écoutons les paroles de grâce de la part du Seigneur. Si vous faites confiance au Dieu qui vous appelle, c'est lui-même qui vous donnera en temps utile le courage nécessaire, les paroles appropriées et l'amour qui renverse les montagnes. Car Dieu n'abandonne jamais les siens, le chemin de vie vous est ouvert. Amen. Je vous invite à vous lever. Pardonnés, libérés, nous confessons maintenant notre foi. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Je crois que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Dieu suprême et mystérieux qui a fait l'univers et le soutien. Je crois que tu es mort, crucifié par nos fautes, et que tu es proche de tous les suppliciés, que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, et que tu vis pour toujours présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, je crois que le Dieu infini est pour nous un Père plein d'amour. Par toi, je crois que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit sur la terre où et quand il veut, assemble les croyants, éclaire l'Évangile et nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle, dans la justice et la joie de Dieu. Amen.
La vie de chaque jour, je parlerai dans ton amour, le bonheur de ta victoire et dans ton éternité.
Vous asseoir. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Seigneur, que l'Évangile lu, célébré, entendu et accueilli aujourd'hui fasse pousser en nous et à travers nous ces fruits dont le monde a tant besoin, la foi, l'espérance et l'amour. Que le Christ fasse croître et mûrir ces fruits chaque jour parmi nous et qu'ainsi la vie des hommes devienne belle et féconde. Dans ce troisième dimanche du temps de Pâques, où nous avons célébré et nous continuons de célébrer la résurrection, c'est d'ailleurs le deuxième dimanche après Pâques pour nos frères orthodoxes, j'y reviendrai, nous lisons dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, tout d'abord, au chapitre 5, les versets 27 à 32. Les gardes amènent les apôtres devant le tribunal religieux. Le grand prêtre les interroge, il leur dit : Nous vous avions sévèrement interdit d'enseigner au nom de cet homme-là. Mais vous, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, vous voulez donc nous rendre responsables de sa mort. Pierre et les autres répondent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous, vous avez tué Jésus en le clouant sur une croix, mais le Dieu de nos ancêtres l'a réveillé de la mort. Dieu l'a élevé par sa puissance, il l'a fait chef et sauveur, pour que le peuple d'Israël change sa vie et reçoive le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de tout cela, nous et l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Et puis ensuite, dans l'Évangile de Jean, à la fin de l'Évangile de Jean, au chapitre 21, les versets 3 à 10. Simon-Pierre leur dit « Je vais à la pêche. » Ils lui disent « Nous aussi, nous venons avec toi. » Ils partent et ils montent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. Quand il commence à faire jour, Jésus se tient au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Jésus leur dit « Hé, les enfants, est-ce que vous avez du poisson ?» Ils lui répondent « Non ». Jésus leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils le jettent et ils prennent tellement de poissons qu'ils ne peuvent plus tirer le filet de l'eau. Alors, le disciple que Jésus aime dit à Pierre c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entend « c'est le Seigneur », il met son vêtement de dessus parce qu'il l'avait enlevé et il se jette à l'eau. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 297, les strophes 1, 2 et 4. Ô Dieu éternel, tes mots sont la lumière du monde et éclairent notre chemin dans ce monde. Parle-nous ce matin et ouvre nos esprits à la paix, à l'espérance, à la justice, à l'amour de ton règne. Puisque nous sommes encore, et jusqu'à Pentecôte, dans le temps de Pâques, je vous parlerai ce matin de résurrection. Dimanche dernier, nos frères orientaux de culture orthodoxe, byzantine, ont célébré Pâques. croyants ou incroyants, dans la rue, à la maison. Ils se sont salués mutuellement de la manière que vous connaissez. « Christ est ressuscité », va dire l'un, auquel l'autre répondra « Christ est vraiment ressuscité ». Ainsi, l'annonce de la résurrection est devenue pour un jour, pour une journée tout entière, cet acte banal, quotidien, qui ponctue la rencontre des hommes et des femmes dans leurs activités les plus courantes, un peu comme lorsque nous nous disons « bonjour » ou « salut » d'ailleurs. Ce jour-là, la bonne nouvelle du Christ vivant a été le lien, le signe tout simple qui a réuni dans le même langage des hommes et des femmes de toutes nations, croyants et incroyants, et même athées d'ailleurs, je viens de le dire. Tous ont spontanément énoncé en une commune coutume ce que l'Église leur a transmis depuis des dizaines de générations, une annonce sereine, tranquille, routinière un peu, dont le sens échappe même à certains. Mais une annonce qui vise une réalité pas tout à fait oubliée. Et puis, par ailleurs, vous connaissez, c'est possible, cette histoire survenue dans l'Union soviétique naissante. Un commissaire politique, après un long discours énumérant les nouvelles réalités du nouveau peuple des Soviets en marche, s'adressant à la foule rassemblée, c'était le jour de Pâques, demanda si quelqu'un avait une question, voire une contradiction à apporter à tout ce qu'il venait de développer. Un vieux prêtre, malade, blême de peur, rassemblant ce qui lui restait de force, monta en tremblant sur la tribune et s'adressant à l'assemblée, énonça d'une voix claire « Christ est ressuscité ». La foule, un instant silencieuse, interloquée, répondit soudainement d'une seule voix « Christ est vraiment ressuscité ». L'histoire ne dit pas ce qu'il advint du pope, mais ce jour-là, une réalité prit le pas sur une autre réalité. Il en est ainsi de la résurrection, tantôt affirmation tranquille et un peu routinière, sereine, d'une réalité quotidienne occupant tous les instants de la vie, et tantôt affirmation combative d'une réalité nouvelle qui contredit tout ce que les hommes veulent faire prendre pour la vérité ou la réalité. Ces deux scènes résume un peu en raccourci toute la problématique de la foi en la résurrection. Tantôt, événement accompli, réalité acquise, tantôt, prédication courageuse d'une réalité nouvelle à mettre en œuvre, tantôt, vérité derrière soi, tantôt, espérance devant soi. Ou bien, en le disant autrement, la résurrection du Christ est aussi bien cet événement du passé qui a eu lieu autrefois, sans moi, hors de moi, loin de moi, et puis elle est aussi cet événement du présent dont je vais m'emparer pour en faire une force vivante et dynamique, susceptible de bousculer les mensonges des hommes et de faire surgir une immense lumière. C'est un peu comme si ce jour de Pâques commencé aux environs de l'an 30 de notre ère, n'en finissait pas de se déployer, de se dilater, sans que jamais les ténèbres ne l'obscurcissent. Et il est important, sous peine de se fourvoyer, de bien tenir en main ces deux dimensions de la résurrection. Véritable événement survenu dans l'histoire des hommes il y a 2000 ans, événement reçu aujourd'hui dans ma vie, histoire présente, victoire ici et maintenant de la parole du Christ dans nos vies et dans le monde. Alors, véritable événement survenu il y a 2000 ans. Les débats entre théologiens ont été nombreux pour essayer de dire ce qui s'était passé avant que la foi des premiers chrétiens ne se raconte sous la forme des évangiles que nous connaissons aujourd'hui. Les uns soutenant que les récits du tombeau vide, d'apparition, d'ascension, ne sont là que pour soutenir sous une forme imagée et symbolique une expérience spirituelle, personnelle, intime, d'une rencontre avec le Christ après sa mort. Et qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas d'un événement historique. Les autres, au contraire, soutenant que la foi n'a pas de sens si elle ne peut pas s'appuyer sur des preuves objectives que nos prédécesseurs ont accumulées et transmises pour qu'aucun doute ne subsiste. Eh bien, il me semble que les uns et les autres sont en deçà de la réalité. La résurrection du Christ est justement un événement dont on ne peut rien dire dans les catégories de notre raison, de notre pensée rationnelle. Symbole, réalité objective, ni l'un ni l'autre. La résurrection est justement cette irruption dans notre monde, dans notre langage, d'une nouvelle inédite, d'une annonce inouïe, d'une réalité tout autre. Et c'est ce que disent nos frères orthodoxes, il est ressuscité, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à expliquer, il est vraiment ressuscité. C'est-à-dire qu'il est vivant. Il a été crucifié, il est vivant. Cela concerne tout le monde, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Une nouvelle réalité est désormais en marche. Quoi que je fasse, quoi que je pense, quoi que je croie, rien ne peut l'arrêter. C'est un don, c'est une donnée incontournable de l'histoire des hommes, de la mienne, de la vôtre, de celle de tous. Ce Dieu que les hommes ont voulu rejeter de ce monde en le clouant sur une croix, ce Dieu est là, toujours vivant, devenu homme solidaire de toutes les souffrances, de toutes les injustices, de toutes les morts. Par sa victoire, il a définitivement enchaîné, réduit à néant la force de toutes ses peurs, de toutes ses angoisses, de toutes ces violences qui étreignent l'humanité depuis qu'elle existe. Christ est vraiment ressuscité, cela veut dire que dès maintenant, il n'est plus possible à personne de désespérer. Il n'est plus possible de croire que le monde va à sa perte, que le destin de l'homme est de souffrir et de mourir, d'être sans fin une victime. La victoire est acquise, il n'est plus possible d'avoir peur. Mais il n'est pas nécessaire non plus de se jeter à corps perdu dans des batailles perdues d'avance, où l'on a l'ambition de faire le bonheur des autres à leur place, où l'on a l'ambition d'expulser le mal qui est en nous ou que l'on croit voir chez les autres. La foi en cette réalité ultime qu'est la résurrection, la vie déjà donnée, déjà rendue, nous épargne de nous prendre pour ceux qui apportent seuls la vérité, la justice, l'amour dans un monde encore bien opaque. La lumière est déjà venue dans le monde, rien ne peut l'éteindre. Voilà, la résurrection, c'est d'abord cela, une réelle présence du royaume, de celui qui est toujours vivant, ici même et maintenant. Et cela depuis qu'un ange a dit aux femmes qui se rendaient au tombeau, « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez Jésus, celui que l'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici, il est revenu de la mort à la vie, comme il l'avait dit. » La résurrection, c'est d'abord donc cette nouvelle réalité qu'un ange, c'est-à-dire un envoyé de Dieu et en fait quelqu'un d'autre, un inconnu, avant que nous en prenions conscience, vient nous annoncer et nous rappeler que c'est tout simplement ce que le Seigneur avait dit lui-même. Mais si l'événement même de la résurrection nous échappe quelque peu, si la résurrection précède la foi, si la foi n'est pas nécessaire pour que Dieu fasse son œuvre dans la création, par contre, la confiance, la foi, sont la possibilité offerte à l'homme de témoigner maintenant de cette réalité qui a pris place dans le monde. La résurrection de Jésus-Christ nous dispense de l'ambition, de l'orgueil, de tout faire, de tout vouloir et de tout dire, mais paradoxalement, elle nous met à l'abri de toutes sortes de démissions dans un monde qui, sans la résurrection, serait condamné à la disparition. La résurrection, c'est aussi un événement reçu aujourd'hui dans ma vie, libéré de toute peur, affranchi de toute angoisse. Le croyant se doit d'attester maintenant de la victoire acquise. La brèche a été ouverte dans les murailles de ce monde corrompu. La trouée a été faite dans les prisons de nos corps mortels. La lumière s'est révélée dans les chaînes de nos esprits obscurcis. La justice relève la tête là où l'injustice règne. Et l'amour a surgi au cœur de la haine. Il nous appartient maintenant de vivre et de faire vivre cette nouvelle réalité qui anime secrètement l'humanité. L'apôtre le dit, la vie, la vraie vie est encore cachée en Christ, cachée mais présente, cachée aux yeux de ceux qui ne croient pas, mais présente néanmoins définitivement pour tous, justes et injustes, pour ceux qui aiment comme pour ceux qui haïssent, pour ceux qui meurent comme pour ceux qui vivent. Et si la résurrection est donc bien une réalité, elle est aussi un combat mené victorieusement par Jésus-Christ, un combat qu'il nous appartient de reprendre à notre compte, de faire nôtre maintenant et de dévoiler aujourd'hui. Il arrive parfois, c'est arrivé récemment, que dans une situation précise, des hommes politiques soient tentés de dire « La partie est jouée, les dés sont jetés, l'avenir qui nous attend est tracé, pour le meilleur ou pour le pire, selon le point de vue que l'on adopte, l'appartenance politique que l'on privilégie. » Oui, aujourd'hui, la partie est jouée, mais ce n'est pas celle qu'on peut croire. En effet, il est vrai, nous sommes enfermés dans des contradictions qui nous paraissent indépassables, que ce soit le réchauffement climatique, la domination indécente des puissances d'argent, la violence qui gangrène les nations, la malveillance qui parfois nous ronge, que nous en soyons victimes ou complices, la véritable partie qui a été jouée, c'est qu'autrefois, là-bas, discrètement, sans tambour ni trompette, sans char ni médias, sans télé, sans radio ni journaux, une partie, la seule et unique partie qui compte pour l'humanité, a été jouée. Elle a été jouée et gagnée en guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, nous dit Luc dans les Actes, le diable, c'est-à-dire l'injustice, le mensonge, la souffrance, la haine et la mort. Personne ne peut jouer cette partie-là si ce n'est le Christ, mais personne non plus ne doit plus l'ignorer. C'est là notre vocation de le dire, de l'attester dans nos vies. Ni ambition démesurée, ni démission recroquevillée. Notre mission est de témoigner de cette partie jouée une fois pour toutes. La résurrection du Christ autrefois là-bas me concerne ici, maintenant, vous concerne, concerne toute la création. Lorsque l'ange a parlé, la terre a tremblé, nous dit Matthieu, la terre a tressailli, secouée par une parole qui venait de dire la justice contre les injustices, la vie contre la mort. La terre a tressailli, comme on tressaille lorsqu'une parole nous touche. La résurrection de Jésus-Christ, c'est ma résurrection, c'est votre résurrection, c'est la résurrection de l'humanité tout entière et du monde qu'elle habite. Ainsi, n'ayons plus de crainte, la croix par laquelle le Christ est passé, celle que nous vivons parfois, celle que les hommes portent douloureusement sur leurs épaules, celle qui pèse lourdement sur une création en quête d'accomplissement et de libération, cette croix est devenue signe que désormais toutes choses sont récapitulées, réconciliées en Jésus-Christ le Seigneur. Quels que soient les obstacles qui se manifestent encore, quels que soient les aveuglements qui persistent toujours, maintenant, une chose est certaine, la brèche qui a été ouverte dans notre histoire ne pourra plus jamais se refermer. Elle va se déployer jusqu'aux confins de l'univers. Christ est vivant, il est notre vie, nous en serons les témoins, comme les premiers disciples, jusqu'à ce que paraissent dans la gloire, la justice, la paix, l'amour que nous désirons. Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Et ici, je suis tenté de dire Amen. Mais retenons dans un souffle un instant notre Amen. Amen, vous le savez, a deux sens. Amen, il en est ainsi. Amen, qu'il en soit ainsi. Amen, un indicatif. Amen, un impératif. Amen, oui, Christ est ressuscité, mais croire en la résurrection, ce n'est pas simplement avoir la certitude confortable que naguère elle eut lieu. C'est aussi prendre un risque, comme l'évangile de Jean nous le rappelle. Pierre, voyant Jésus sur la rive, se jette à l'eau. Lui qui, à une autre occasion, avait failli se noyer par manque de foi, ne craint pas cette fois-ci de quitter la sécurité de sa barque pour inaugurer une aventure qui va d'ailleurs lui occasionner bien des mésaventures. Mais Pierre sait que le ressuscité l'accompagne et il est prêt à tout risquer pour que désormais cette parole de libération, de justice, de paix se répande sans frein. Les hommes auront beau tenter de le faire taire en le mettant en prison, en le flagellant, comme le rapporte le livre des Actes, rien n'y fera, il continuera de plus belle à dire cette vie nouvelle qui est offerte à tous. L'annonce de la résurrection devient alors pour lui, comme pour nous aujourd'hui, non pas une disputatio académique entre gens de bonne compagnie, mais le risque que l'on prend lorsque l'on veut que des hommes et des femmes abîmés par leur histoire relèvent la tête, résistent aux injustices, retrouvent l'espérance. Puisque Christ est ressuscité, soyons à notre tour les apôtres, les acteurs de toutes les résurrections auxquelles notre monde et celles et ceux qui l'habitent aspirent. Il en est ainsi, qu'il en soit ainsi. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 178, les strophes 1, 2, 4 et 6. 1, 2, 4, 6. Vous pouvez vous asseoir. C'est le moment des annonces, je pense.
Bonjour à tous. Alors, ce sont les annonces donc pour la semaine prochaine. D'abord, on doit bien sûr remercier le pasteur Jean-Pierre Rive que beaucoup d'entre nous connaissent par ailleurs, pour sa prédication qui nous incite toujours à aller de l'avant et qui n'en est que plus précieuse. Et également Aurélien Peter qui tient l'orgue aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a encore une autre festivité qui est le repas paroissial qui a lieu à partir de 12h en salle mono. Je pense qu'il y a encore des places, mais oui, il y a encore des places, me dit Francine. Le lundi 6 mai, donc demain, ce sera une séance d'hébreu biblique pour avancer, de 19h à 21h, par Christophe Simienski. La prochaine annonce concerne le samedi 11 mai, où il y a également de l'hébreu biblique, mais le niveau découverte cette fois-ci, de 10 à 11 heures, avec le pasteur Castelnau, également présent. Et puis, ce même samedi 11 mai, l'Assemblée Générale des Amis du Temple et de l'Orgue de l'Oratoire du Louvre, ce qu'on appelle l'ATOL. Je vous rappelle que l'ATOL, c'est l'association qui gère à la fois l'animation de ce temple et puis également une bonne partie des travaux qui y sont menés. Alors vous êtes les bienvenus, même si vous n'êtes pas membre, ça vous donne d'ailleurs l'occasion de le devenir. Le dimanche 12 mai, donc dimanche prochain, alors si vous souhaitez animer le culte de 10h30, vous pouvez venir de 9h30 à 10h30 pour chanter avec le chœur de l'oratoire les cantiques et les psaumes du culte du jour. Le culte aura lieu bien sûr à 10h30 et il sera présidé par la pasteur Béatrice Cléromazir. Il y aura la présence du chœur bien sûr et également un baptême, celui de Chloé. Alors que ce sera Alexandre Korovitch et la garderie reprend. C'est également le deuxième dimanche du mois, donc celui de l'éducation biblique qui commence à 10h30. Alors, Pour les plus petits, c'est un rendez-vous à la maison presbytérale pour les enfants de l'éveil biblique, hein, jusqu'à 12 heures. Et pour les autres, au temple, avec leur pique-nique, pour les enfants de l'école biblique qui suivront ensuite un mini-culte avec Aurélien Peter et pour ceux du catéchisme, également ce dimanche 12 mai, donc en plus de l'éducation biblique, vous aurez un verre de l'amitié dans la grande sacristie à l'issue du culte, et vous aurez également de l'autre côté une vente de gâteaux par la patrouille éclaireur des loups qui sert, laquelle vente de gâteaux sert à financer leur camp d'été. Voilà. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Et l'offrande d'aujourd'hui, elle est dédiée à l'entraide. Et à ce titre, elle sert à aider toutes les personnes qui se présentent à nous dans des situations parfois graves, ce qui nécessite parfois à la fois des dépenses d'argent ou des dépenses administratives ou des dépenses de toutes sortes. Donc, je vous remercie beaucoup par avance du don que vous allez faire. Merci beaucoup.
Je vous invite maintenant à la prière d'intercession. Dieu saint, nous ne te demandons pas de rendre nos vies faciles, mais nous te prions de nous affermir. Nous te demandons pas des tâches à la mesure de notre force, mais nous te demandons une force à la mesure des tâches dont tu nous charges. Donne-nous le courage et la force nécessaires pour que ton projet d'amour, de paix, de justice devienne réalité dans la vie de ton peuple tout entier et dans toute la création. Viens à nous dans ta miséricorde et affermis-nous par ton esprit. C'est ainsi que nous voulons te confier nos vies, te confier nos proches, ceux qui font notre joie et ceux dont le souci nous tourmente, ceux frappés par une souffrance ou par une longue difficulté à vivre, tu les connais. Et nous voulons enfin te confier ce monde, le nôtre, le tien, et nous offrir à toi pour que tu nous mettes à la place que tu as choisie, sur le chantier de la cité, au nom de Jésus-Christ, qui nous a appris cette prière que nous allons dire maintenant debout tous ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous restons debout pour entendre l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Seigneur, le monde n'est pas très joli. Notre monde, ce monde que tu nous as donné à faire, les hommes ont faim de pain, sûrement, mais aussi de tendresse, d'estime, d'amour. Les hommes meurent parce qu'ils n'ont pas de raison de vivre. Les hommes meurent faute d'espérance. Ce n'est pas de l'or et de l'argent qu'ils attendent de nous, mais ils veulent que nous leur disions qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils vivent et où ils vont. Ils veulent entendre de nous que leur vie est utile, que toute vie vaut la peine d'être vécue. Seigneur, je voudrais dire à tout homme, au paralysé, à l'humilié, au boiteux, au meurtri, au nom de Jésus-Christ, recommence à vivre, à croire, à espérer, marche, gambade, tu peux danser de joie. Je voudrais, Seigneur, redonner leur force aux mains fatiguées et leur fermeté aux genoux qui chancellent. Je voudrais dire au cœur bouleversé de reprendre courage. Je voudrais le faire en ton nom. J'aurais envie de partager cette espérance qui est la nôtre. Je voudrais lutter avec tous mes frères pour que le désert de ce monde redevienne un verger et que sur la terre des hommes, on puisse voir la tendresse de Dieu. Je le voudrais. Pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Nous pourrions faire des choses plus grandes que toi, avec un peu d'imagination, avec un peu d'audace. Mais j'ai peur. Peur de lutter, peur de me donner, peur de me perdre. Réveille-moi, Seigneur, bouscule-moi, donne-moi ton esprit et qu'il me prenne tout entier. Montre-toi, Seigneur, donne un signe d'amour au monde ressuscité. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous garde dans sa paix. Allez et demeurez dans la paix de Dieu. Amen.